Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, c'est reparti pour la deuxième moitié de saison 2023 et forcément c'est la rentrée des classes aussi pour votre podcast consacré à la Formule 1. Il revient parfaitement bronzé et sans aucune marque de bronzage. Stéphane, petit coquin. Ça va Stéphane Brignot?
Salut Gilles.
Alors le meilleur élève a encore gagné. Max Verstappen égale au passage le record de 9 victoires consécutives de Sébastien Vettel. On évoquera un aspect de plus en plus humain du Néerlandais qui a gagné chez lui le week-end dernier. L'une des images fortes de ce GP, c'est Charles Leclerc attendant dans la voie des stands que ses mécaniciens lui apportent ses pneus mixtes. Le Monégasque finira par abandonner quand son coéquipier prendra lui la 5e place. Grosse pression quand même du côté de la Scuderia à une semaine du Grand Prix à Monza. Alpine, de nouveau sur le podium, malgré des performances inquiétantes. Pierre Gasly a profité des conditions très compliquées pour arracher la 3e place. Alors, est-ce que c'est une embellie durable ou juste un coin de ciel bleu? On en parlera aussi. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc avec... cette victoire de Max Verstappen, rien n'y a changé au niveau de la trêve estivale. Le Néerlandais qui reste de très loin le plus fort. Rien de neuf au sommet du podium. 11e victoire de la saison et donc la 9e consécutive. Ce qui lui permet d'égaler le record de série de 9 victoires de Sébastien Vettel établi il y a tout juste 10 ans. C'était en 2013. On a surtout le sentiment, Stéphane, qu'il a tout maîtrisé, tout le temps, même quand il a pris un petit peu de marge pour faire son premier arrêt en tout début de course, pour passer les pneus mixtes. Il est ensuite remonté comme une balle dans le peloton, en reprenant même 2 ou 3 secondes autour à Checo Pérez pour revenir au premier rang. Il a contrôlé Alonso après le drapeau rouge. Bon, le record de 9 victoires à la suite égalée de Sébastien Vettel. C'est quand même un marqueur fort, là, Stéphane.
Oui, Vettel avait fini par 9 victoires en 2013. Je ne sais pas, il en reste 9 d'ailleurs.
Il me semble, oui, c'est ça, ouais, je crois.
On en a fait 13. Il y a 22 Grands Prix cette année. Donc, il peut encore aller loin. 9 victoires, c'est stupéfiant. Il a expliqué qu'il ne se voyait pas à ce niveau-là. C'est vrai qu'on ne peut même pas en rêver. On pense qu'un tel record ne sera jamais égalé. Moi, je me souviens de ce qu'avait dit Sébastien Vettel en 2013, à la fin de la saison. Profitez-en bien,
oui,
tous.
Ouais. C'était assez étonnant comme message.
Ça ne durera peut-être pas. Enfin, ça ne durera pas de toute façon. Et effectivement, l'année suivante, c'était le retour à la réalité, à la dure réalité. Et là, en fait, il veut aussi savourer l'instant présent. Et globalement aussi, il n'y a pas eu de débordement dans les tribunes parce que les supporters néerlandais sont quand même assez... dissipés. Parfois, ils ont même des mauvaises initiatives qu'on n'a pas revues cette année, ouais. Des fumigènes, des choses balancées sur la piste. Donc, tout s'est bien passé. C'était comme dans un rêve. 3 doublés de suite, pole position, victoire. C'est juste remarquable. Et Horner en avait déjà parlé samedi. Quand tu dis qu'il a tout bien fait dans l'ordre, je dirais qu'il a sorti la panoplie du champion, tout simplement. Et en Q1, ça avait mal débuté. Son premier tour, c'est un tout droit. Ouais. Le deuxième tour, il est bloqué. Et puis, il n'avait plus qu'un tour pour passer le cut. Il l'a fait proprement. Et Horner avait dit qu'il avait quand même la pression supplémentaire d'une course à domicile. Il faut vraiment représenter ce que c'est en termes d'attente de la foule.
Et puis de sollicitation des médias, tout ça.
On entend la foule quand on pilote. On ne peut pas être étranger à ça, le battage médiatique, etc. Il a dit qu'il gère ça de façon absolument parfaite. Voilà. Donc, on a eu l'étalage de toutes ces qualités ce week-end. On le savait déjà, mais c'est bien d'avoir... Et puis, on a eu ce petit bonus. Effectivement, il a rentré un tour après les autres. Et puis là, il s'est offert une remontée. Autrement, c'est vrai qu'il serait parti tout seul devant. Donc, on a encore vu que même quand tu lui colles 10 ou 12 secondes de retard, il les efface assez rapidement par rapport à Pérez ou... On pourrait même penser par rapport à n'importe quel autre pilote.
Oui,
il est tellement bien à bord de cette voiture, c'est comme une seconde peau pour lui. Et il a dit, d'ailleurs à l'arrivée, en conférence de presse, qu'il y avait un déclic cette année, c'était à Bakou.
À Bakou,
où
oui.
Il avait compris comment régler la voiture et que là maintenant, ça roule parfaitement. Donc on attend la suite et peut-être une 10e victoire qui serait pour le coup un record absolu à Monza. On assiste encore à des moments d'histoire dans cette saison qui va à sens unique quand même.
Exactement. Alors on a parlé là du côté sportif. J'aimerais bien qu'on évoque aussi un aspect humain parce que je trouve qu'il a beaucoup évolué. Alors on en avait déjà parlé un petit peu, mais là il y a des déclarations qui sont assez marquantes, je trouve. Hein. Il dit à la conférence de presse qu'il fait après l'arrivée, j'avais déjà la chair de poule lorsqu'ils ont joué l'hymne national avant le départ. Et même avec le mauvais temps, la pluie, les fans n'ont pas lâché l'affaire. C'était une atmosphère incroyable. Il n'a pas 26 ans et je trouve qu'il prend un petit peu d'épaisseur humainement. Il a rajouté, hein, c'était probablement l'une des courses les plus difficiles à gagner, 9 d'affilée. C'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Je suis très heureux de cette victoire, mais je suis en général très heureux de gagner ici devant mon propre public. Il y a quelque chose, tu vois, je trouve de très humain. C'est compliqué quand on gagne tout de ne pas être détesté parce que souvent on va vous reprocher d'être ultra dominateur. Bah, c'est ce qu'il est, oui, mais peut-être parce que simplement il est plus fort que les autres. Et j'ai l'impression qu'avec ce genre d'attitude, alors je ne sais pas si c'est fake ou s'il le pense vraiment, avec ce genre d'attitude, il va peut-être pouvoir éviter un côté un petit peu antipathique qu'a eu à un moment un Michael Schumacher, où on sait, il a été un petit peu fort en gueule. Verstappen, il était dur quand il était jeune. Il a 25 ans. Il n'est pas vieux. Mais je trouve qu'il avance beaucoup aussi dans ce domaine-là.
Il a lissé son pilotage. Ça remonte à la mi-saison, je pense, de l'année dernière, où il avait vraiment cette notion en tête d'éviter les problèmes, de ne pas aller au contact. On savait qu'il allait être champion du monde à mi-saison déjà, mais il voulait faire à chaque fois le week-end parfait, éviter les abandons. Ça, c'était un peu l'obsession. Et on retrouve la même chose cette année, ce soin particulier à éviter les embrouilles et à ce que tout se déroule très très bien. On découvre même une forme de maturité, ouais, une forme de sagesse dans son discours, parce que il dit à propos de la direction de course, ils ont sorti le drapeau rouge et je n'étais pas content, mais avec le recul, c'était la bonne chose à faire. Et généralement, par le passé, Verstappen, quand il se trompait sur une déclaration un petit peu excessive, on connaissait sa nature, il ne revenait pas là-dessus, il n'admettait pas. Et puis Helmut Marko n'était pas là non plus pour relativiser ce qu'il disait, c'était tout dans la même direction. Et voilà. Et là, en fait, on sent quelque chose de différent. Et pour moi, il essaie de savourer l'instant présent parce qu'il est peut-être plus proche de la fin de sa carrière que du début, même s'il a 25 ans.
C'est vrai.
Il a répété ces dernières semaines, ces derniers mois. Il ne ferait pas de vieux os. Il en comptera jusqu'à fin 2026 avec Red Bull, avec 2 années en option. Il le dit, le rythme du calendrier lui pèse. Et là, c'est comme s'il voulait prendre le temps de savourer un petit peu, sachant ses moments comptés, finalement. Et que moi, je ne serais pas surpris qu'un jour, ils nous disent comme ça, qu'ils balancent tout en disant bah, « ça y est, maintenant, j'en ai marre. »
Un petit peu à la crise d'honneur.
Ah non, mais
j'ai fait le tour, ça y est, c'est bon, j'arrête.
Tout à fait. Et... pour l'instant, Helmut Marko dit son gros avantage est qu'il est concentré sur la Formule 1, c'est sa vie, voilà, et tout le reste en découle. Ça veut dire que vraiment, il a basé toute sa vie là-dessus, il a une énergie, il y consacre toute son énergie. Quand il s'amuse à côté, c'est pour faire des courses en simulation. Lewis Hamilton a une autre vie. À côté des circuits, c'est la mode, c'est plein de choses. Il profite différemment la musique. Et lui, il est à fond là-dessus. Et le jour où il va débrancher, ça sera brutal. Et je pense qu'il aura pas, il ne serait pas allé au bout de son contrat. On sent qu'il a envie de profiter. Et on le découvre différemment. Je trouve que ce n'est pas le robot qui était quand même Schumacher. On gagne et puis il pensait tout de suite à la course suivante. C'est là, il commence à prendre un petit peu du recul, c'est pas mal.
Et on l'a vu dans son attitude aussi. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Il est allé piquer pendant la parade la caméra que tenait Lando Norris pour McLaren. Il est allé carrément lui piquer. Et il a interviewé d'abord Lando Norris et puis comme ça l'a bien fait marrer, et ben il a fait quasiment tous les pilotes pour y compris Liam Lawson qui était un petit peu surpris de se faire interviewer par Max Verstappen. Cette séquence, elle est assez incroyable parce que on est quand même dans une procédure où c'est son Grand Prix national. Hein. Là, sur le camion, vous pouvez enlever à peu près tous les pilotes, sauf un.
Oui.
Tous les regards sont tournés vers lui et lui, il est quand même assez parfaitement détendu. Les questions sont, il y a du sourire, mais il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'agressivité. Il va voir à peu près tous les pilotes. C'est pas que ses copains. Enfin, c'est vraiment étonnant. Et en même temps, il y a eu quand même, faut quand même revenir au Grand Prix, l'étalage de toute la palette de ses talents pour s'adapter à chaque seconde aux conditions de piste. Et ça, c'était une des conditions sine qua non pour s'en sortir ce dimanche à Zandvoort. Il fallait vraiment avoir toute la palette pour survivre. Tu voulais nous parler de Fernando Alonso, qui a encore une fois montré l'immense expérience dont l'Espagnol peut bénéficier.
Oui, parce que il termine deuxième, c'est pas un hasard. Il fallait vraiment déployer toutes les qualités que peut avoir un pilote sur le mouillé, sur ce qu'on appelle le gras, c'est-à-dire des conditions où la piste est glissante. Mmh. Elle est en train de sécher, mais c'est encore un petit peu délicat. Schumacher était très fort dans ces conditions-là, d'autres aussi.
Les bons mais sont les très
grands,
bons, en fait.
Les grands deviennent les très grands dans ces conditions-là. Voilà. Et lui, il a tout proposé parce que c'est beaucoup plus difficile de maintenir les pneus en température ou les monter en température. Et je me souviens d'un épisode des Fous du Volant avec Sébastien Buemi qui nous racontait l'arrivée de Fernando Alonso chez Toyota. Et il a dit, Fernando, on l'a tout de suite mis sur les relais de nuit parce que on s'est aperçu qu'il savait mieux exploiter les pneus et les faire chauffer quand la température
était plus fraîche.
Voilà, plus fraîche. Et c'est ce qu'il sait faire. Il était dans son élément. Et puis, il a varié les trajectoires, effectivement, dans ce... banking, alors je dirais qu'il était bankingable.
Il est bankable de toute façon,
tout à fait.
Fernando.
Et c'est là où il a raconté qu'il avait regardé, et ça c'est très Alonso, hein, il avait regardé, c'est en regardant des courses de Formule Renault,
oui,
qu'il avait réalisé qu'il y avait des trajectoires différentes et que ça l'avait fait réfléchir par rapport à ça et qu'il avait testé de différentes lignes.
Tu parlais d'un Verstappen qui ne vit que pour la course. Alonso peut le mettre aussi. Hein.
Il est à fond dedans aussi, ça c'est certain. Et puis, tu te souviens, avant la trêve, ils avaient fait quand même trois grands prix difficiles et là, ouais, il avait dit, de retour à la rentrée, on est sur le podium. Alors, moi, c'est reparti pour un tour. Voilà.
C'est presque un gourou, Fernando Alonso. Il y a un excellent papier d'ailleurs, justement, où il explique tout ça. Un excellent papier de notre confrère Julien Pereira, JAP, qui participe régulièrement au Fou du Volant sur Eurosport.fr. Allez-y, n'hésitez pas à lire. Et dans cette catégorie, finalement, où il faut avoir toutes les palettes de talents.
La confiance aussi. Alonso a insisté là-dessus. Je suis dans une voiture où j'ai confiance. À un moment, il a dit la voiture volait, tout simplement. Enfin, c'est lui qui la faisait voler.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que Stroll volait un peu moins.
On
ne
peut pas vraiment
en
parler, mais non, c'est juste incroyable. Et puis, quand il est resté en piste, on a senti un petit peu la difficulté de suivre Verstappen. Mais si tu fais quelque chose de décalé, ça peut te mettre complètement à côté de la plaque. Alors là, il a suivi Verstappen.
Ouais,
c'était
pas
mal non plus.
Oui, il fallait y arriver.
Même si ça passait par un petit sacrifice.
Stéphane, on termine sur le sujet quand même. En un mot, avec Hamilton, on disait qu'il fallait avoir toute la palette des talents pour s'en sortir ce week-end à Zandvoort. On parlera évidemment de Pierre Gasly un petit peu plus tard dans le podcast. Moi, j'ai été surpris de ne pas voir finalement Hamilton émerger plus vite. Il a gagné 6 ou 7 places pendant le Grand Prix, mais je n'ai pas retrouvé le même impact qu'habituellement.
Tout est venu quand même de sa sortie en Q2, où il s'est fait tsunoder. J'utilise cette expression inventée par Helmut Marko quand Tsunoda avait pris un échappatoire au Mexique en qualif, en sachant que Verstappen arrivait derrière lui. Il avait soulevé un nuage de poussière qui avait perturbé Verstappen et qui l'avait, lui avait fait gâcher son tour. Et Marco avait dit on s'est fait tsunoder. Et Hamilton s'était fait un petit peu tsunoder aussi en Q2 parce que dans son tour décisif, il s'est fait gêner par le japonais qui a des expressions absolument magnifiques. Hein. Il a accusé Hamilton, il a dit « Hamilton, traffic man ». Je trouve que c'est absolument génial. Je crois que c'est ce qui laissera de son passage dans l'histoire de la Formule 1. Et donc Hamilton s'est retrouvé 13e sur la grille. Il s'en est pas sorti parce qu'il était 12e, 13e. Et puis il a monté, il a dit « à chaque fois que je rentrais au stand, je repartais pour... une nouvelle chasse à ceux qui étaient devant. » Et puis, son choix quand même un petit peu bizarre. Il a dit ça la veille, je réfléchissais à faire un choix décalé. Alors, pour le coup, il était décalé, des médiums, il était le seul. Ouais. Il a dit, bon, bah là, effectivement, j'ai vu que c'était mal parti. Et en qualif, il avait quand même expliqué que la voiture reste difficile en termes d'exploitation. Elle a une fenêtre d'exploitation des pneus qui est très étroite, qui reste étroite. Et souviens-toi quand même, ils ont corrigé cette voiture, alors les pontons, etc., retour au classique. Mais surtout, ils avaient changé la suspension avant pour essayer d'élargir un petit peu la palette de réglage.
Et ça marche pas très bien. Voilà, ça n'a pas fonctionné autant qu'il l'espérait.
Il était en galère pour chauffer les pneus, donc l'explication. Et à la fin, il a dit, moi, il me manquait de la VMAX pour doubler Sainz. Il aurait pu finir 5e, il s'est contenté de la 6e place.
Alors, on va passer à un autre sujet cinglant pendant ce Grand Prix des Pays-Bas. C'est Ferrari. Ferrari au plus mal avant d'aller à Monza. On fait le bilan. Abandon pour Leclerc, 5e place pour Sainz. Ferrari repart de Zandvoort avec
10 points.
Ouais, 10 points, c'est pas lourd. Avant de retrouver les Tifosi à Monza, Charles Leclerc qui s'arrête dès la fin du premier tour pour chausser des pneus intermédiaires. Et là, les pneus ne sont pas là. On croit revivre un cauchemar de l'époque binotienne de chez Ferrari.
On fait des air pit stop. Exact. Chez Ferrari, tout est en place mais il n'y a pas les pneus.
Et alors le Monégasque, il a expliqué après l'arrivée en fait qu'il avait indiqué à son équipe l'intention de s'arrêter trop tard pour que les pneus soient prêts. Alors notre confrère Julien Pereira, lui, il a regardé sur les caméras embarquées avec les radios, et Pierre Gasly, il prévient Alpine au même endroit sur le circuit que Charles Leclerc. Donc, alors il faut peut-être plus de temps chez Ferrari. Peut-être que le canal de communication n'est pas le même et il n'est pas optimal. Je me dis, parce que je ne pense pas que Charles Leclerc mente pour protéger l'équipe. Ça, c'est une question qui a été posée. Je sais que beaucoup de gens en doutent. Je ne pense pas qu'il mente pour protéger l'équipe.
Même si Fred Vasseur l'a un petit peu remis à sa place ces derniers temps disant qu'il parlait un petit peu trop chaud et qu'il était ensuite obligé de corriger les critiques qu'il avait formulées parce qu'il n'avait pas toutes les informations. Donc il a été assez prudent par rapport à ce couac, quand même, ce qui reste un couac. Mais on ne sait pas bien ce qui s'est passé.
Moi, je ne pense pas que Charles Leclerc mente. En revanche, je me demande si, par exemple, quand Pierre Gasly il a appuyé sur la radio en disant « je rentre pour des inters », est-ce que les gens qui s'occupent des pneus entendent aussi ce message et donc tout de suite, hop, se lèvent, prennent les pneus, vont vers la voiture? Peut-être que chez Ferrari, quand Charles Leclerc le dit, eh ben, il n'y a que Xavi, son ingénieur, qui l'entend, et que Xavi, il est ensuite obligé de dire au mec qui doit aller chercher les pneus, allez chercher les pneus. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
L'un des premiers chantiers de Fred Vasseur, effectivement, simplifier la communication. Il a remercié le stratégiste en chef. Et il a dit qu'il y avait trop de gens qui écoutaient les radios et qui donnaient leur avis avant de prendre une décision. Là, c'est pas compliqué. Quand il dit « je rentre », tout le monde l'entend normalement.
Il n'y a pas de question à se poser.
Moi, je me souviens de la course sprint à Spa, avant le break estival, où toutes les équipes avaient fait rentrer un pilote à la fin du premier tour pour changer de pneu. Et là, on avait su que... Ferrari était opérationnel de ce point de vue-là. Il n'y avait pas eu de loupé spécifique. Mais Spa, quand tu te décides, c'est quand même le circuit le plus long du championnat. Là, Zandvoort, c'est le deuxième circuit le plus court. Alors, tout va un petit peu plus vite, mais peut-être que chez Ferrari, on voulait laisser les pneus sculptés un peu plus
au chaud pour les mettre,
pour avoir un petit peu plus... Parce que là, ça commence à devenir délicat. Je ne sais pas, mais... Je constate toujours la même chose, c'est que c'est toujours pareil, ça n'arrive qu'à Ferrari.
Oui, ça c'est clair. Bon, c'est arrivé aussi un petit peu à AlphaTauri dans une certaine mesure. Au-delà de ça, la voiture, elle paraît hyper compliquée à piloter. Et d'ailleurs, Charles Leclerc l'a confirmé lui-même. Hein. Il sort en Q3 en essayant d'aller chercher un chrono pour essayer de bien figurer sur la grille. Mais on le voit aussi avec Carlos Sainz, hein, qui n'a pas pesé du tout sur la course. Bon, Leclerc, en plus, avec un contact avec Piastri, endommage le plancher de sa voiture. Oui. Et finalement, perd beaucoup d'appui aéro, ne peut rien faire en course. C'est presque une bonne surprise de voir que finalement Ferrari est encore au contact d'Aston Martin pour aller jouer la troisième place du championnat des constructeurs. Il y a 14 points de retard pour Ferrari. On essaiera d'oublier qu'Aston Martin ne roule qu'avec un seul pilote.
C'est leur chance encore. Hein. Oui. C'est pour ça qu'ils sont dans
et
le
ils
match.
Peuvent terminer sur le podium des constructeurs, oui, avec une saison qui est quand même encore très très compliquée.
Oui, la troisième place, ça, c'est presque le minimum syndical de toute façon pour Ferrari. Mais dès les premiers essais, ils ont compris que la voiture manquait de performance. Ils font du yo-yo cette année, vraiment d'un circuit à l'autre. Les prestations sont très irrégulières. On l'a vu là. En Hongrie, ils ont fait un Grand Prix très difficile. Ils se sont repris en Belgique. Là, c'est quand même une rechute absolument catastrophique. Et Charles Leclerc dit « Bon, bah, Monza sera l'une des pistes les plus difficiles en termes de balance, d'équilibre de la voiture. Mmh. » Et on se cherche encore chez Ferrari. Alors, la complication extrême, c'est que à Monza, c'est un package spécial. C'est vraiment un one-shot. Ouais. Donc, ils vont encore découvrir une nouvelle voiture. Donc, tu n'apprends pas... Tu ne te sers pas de ce que tu as appris avant sur la voiture pour extrapoler, etc. Vendredi matin, leur obsession, c'était juste chercher à régler la voiture correctement. Ce qu'ils avaient fait, tu sais, tu te souviens, en 2021, le travail, c'était l'exploitation. C'est-à-dire, on a un produit, on l'optimise. On ne pense pas à rêver, à ajouter des nouvelles pièces. Il ne faut pas rêver de ce qu'on n'a pas. On fait avec ce qu'on a. Et c'était sans doute la bonne démarche, sauf qu'ils n'y sont pas parvenus. Mmh. Les deux pilotes étaient à côté de la plaque. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Enrico Cardile, le directeur technique châssis, a dit vendredi, c'est clair comme du cristal, nous nous sommes trompés sur la voiture, sur le design de la voiture de 2023.
Nous avons... Je ne sais pas combien il paye Enrico Cardile, mais voilà. Moi, pour moins que ça, je pouvais leur dire qu'il avait loupé la voiture.
Nous avons réalisé que nous avions fait certains choix d'architecture, de conception qui étaient erronés. Mm. C'est ça le souci. Et de là, ça a bloqué le développement. On l'a dit plusieurs fois ici. La voiture de 2022 est bien née. Ils l'ont développée à un rythme soutenu et efficace pendant 6 mois. Et puis après, on a été sur la pente douce. Ouais. La voiture de 2023 est une déclinaison de 2022. Et là, Enrico Cardile a dit ça ne sera pas le cas de la prochaine voiture 2024. Ça sera un nouveau concept. Mais le souci, c'est qu'il nous dit nous savons où sont nos faiblesses et nous devons comprendre quoi faire. Et là, on est en pleine finalisation du design de la voiture de 2024 et on a encore le sentiment qu'ils ne savent pas trop où ils vont.
Ouais, et le problème, c'est que maintenant, est-ce que le plus important n'est pas finalement de commencer à travailler sur la voiture de 2024 ou d'essayer de sortir d'une sorte d'impasse avec ce modèle ?
Là, ça veut quasiment dire de toute façon qu'ils ont raté le développement.
Oui, voilà. On a la même lecture.
Il y aura un package spécifique à Monza parce que ça, c'est prévu depuis longtemps et tu ne peux pas faire autrement.
Et puis après, on va se
débrouiller. Sortir des ailerons, voilà. Des choses qui sont d'autres circuits. Et puis, dans tout ça, Leclerc a très bien résumé les choses. Il a dit, ce sera très difficile de rattraper Red Bull avant 2026. 2026, ouais. C'est l'arrivée du nouveau
règlement technique
pour l'instant moteur. Ouais. On ne sait pas ce qui sera ajusté sur les châssis, on n'en parle pas. Ça veut dire qu'on reporte encore les espoirs un petit peu plus tard. Bon, c'est quand même une étrangeté. Et puis, Gilles, je ne sais pas si tu n'as pas été quand même un petit peu intrigué par...
Je voulais t'en parler, justement. L'abandon de Charles Leclerc, c'est ça ?
Écoute, voilà.
Parce que je me suis posé la question en me disant, finalement, c'est logique. La voiture, elle est abîmée, il ne peut rien faire. C'est peut-être pas idiot de la rentrer au stand, d'économiser un peu le moteur. Bah, mais j'ai vu que ça a choqué pas mal de personnes. Et toi, tu es embêté par cette décision.
L'année dernière, les équipes avaient 3 blocs moteurs, 3 ensembles propulseurs pour faire toute la saison. Ils en ont rajouté un 4e cette année au motif qu'il y avait 24 Grands Prix. En fait, on a annulé 2 Grands Prix, donc ils ont de la marge sur les moteurs. Il n'y a aucun problème. Et l'année dernière, ils avaient changé les moteurs à tour de bras parce qu'ils continuaient de faire du développement. Mais cette année, ils ont largement ce qu'il faut. Et puis, ils mettront des nouveaux blocs, certainement, à Monza. pour essayer de se donner une chance de briller, parce que c'est quand même mal parti. Et cette voiture, elle a mal évolué, tout simplement parce qu'il n'y a pas un grand guide technique qui manque. On le rappelle, personne n'est directeur technique chez Ferrari. Et Fred Vasseur va annoncer des noms prochainement.
Ouais.
Mais si Leclerc parle de 2026, c'est qu'aussi ce directeur technique, cette pointure, arrivera peut-être qu'en 2025 pour faire la voiture 2026.
C'est ça.
Donc là...
Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on est vraiment sur une échelle de temps long, hein, chez Ferrari. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais noté, mais le directeur de la com de Ferrari F1... a changé pendant cet été, justement. On va axer vraiment beaucoup, beaucoup la communication sur le fait que voilà, ça va être long, que c'est un chantier assez pharaonique qui maintenant est lancé du côté de la Scuderia.
Ce qui est fabuleux, c'est que dans tout ça, Charles Leclerc, il a la foi. Il a dit « J'aime Ferrari, ouais. J'ai envie de continuer à gagner avec Ferrari. » On sait que ça peut être long. Avec Schumacher, on avait trouvé ça interminable. Il avait gagné au bout de la sixième saison complète, ouais, chez Ferrari.
Donc, on a un peu tendance à l'oublier, ça. Hein.
Et puis, Sainz demande aussi à Ferrari de se positionner. Ça sera peut-être réglé prochainement, mais les pilotes ne sont pas véritablement un sujet. Il faut vraiment améliorer la base de travail, l'objet voiture.
Alors, on va passer justement à une autre marque, Alpine, qui, avec cette troisième place de Pierre Gasly, a retrouvé donc le chemin du podium. Est-ce que c'est le retour du ciel bleu après cet énorme orage, hein, pour rester dans la métaphore météorologique de l'été? Alors, est-ce que c'est le retour du ciel bleu ou une simple éclaircie, un coin de ciel bleu? En tout cas, l'équipe a tout bien fait dimanche, avec vraiment des passages au stand plutôt très très bien négociés.
Juste un quatrième d'ailleurs meilleur pit stop. Ouais. Tout à fait. Derrière Red Bull et puis McLaren par deux fois pour Norris et Piastri. Donc, c'est pas mal. Ils arrivent, hein, ils jouent maintenant avec les grands là-dessus. Donc, en termes opérationnels, c'est très bien fait.
Et il y a eu un petit délai sur le début de course pour Ocon, hein, qui finalement n'a pas mis les pneus mixtes au même moment que Pierre Gasly. Ils l'ont fait attendre un tour de plus. En revanche, pour Esteban Ocon, il y avait fait prendre l'excellent pari de partir avec, ouais, des pneus pluie au moment de la deuxième grosse averse. Pas de chance. Guangyu Zhou est sorti de la piste et il y a eu drapeau rouge. Alors la question, Stéphane, c'est de savoir, est-ce que c'est seulement dû aux circonstances ou est-ce qu'il y a une vraie dynamique nouvelle qui s'est enclenchée avec le départ, on va dire, de Laurent Rossi et de Otmar Szafnauer?
Le baromètre, c'est le moral, tout simplement. Et je trouve que l'état d'esprit est génial. On surfe sur la troisième place de Pierre Gasly en course sprint à Spa, qui avait reboosté vraiment tout le monde dans un moment assez difficile de chamboulement, hein, ouais, dans l'écurie.
C'est quand même assez étonnant de
voir. Et là,
cette troisième place à Spa, Gasly, en sprint, oui, et là en, oui, course, mais, à un moment où c'est la tempête.
Mais on ne parle pas de l'après-course. Moi, je parle de l'avant-course. Mm. C'est-à-dire que Gasly, avant Zandvoort, il dit « Moi, je crois au projet Alpine. On va s'en sortir, on va y arriver, on va progresser, j'y crois. » Et à l'arrivée, Esteban Ocon dit « Félicitations avant tout à Pierre et à toute l'équipe.
Ouais.
Ça veut dire que, alors, on avait promis des étincelles, etc. Ils ont été plus souvent qu'à leur tour dans le dur cette année. Et tout le monde se serre les coudes et les pilotes s'adressent quand même des félicitations pour dire bon, c'est pas moi ce coup-là, mais ça fait avancer tout le monde. Donc, la cause commune. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, moi, c'est ce que je retiens pour l'instant et c'est ce qu'il fallait. Maintenant, effectivement, Bruno Famin, il arrive là, c'est un petit coup de chance quand même. Parce que si je regarde bien mes notes, les trois derniers meilleurs résultats de Alpine ont été acquis sous la pluie. Japon 2022, sous la pluie, il marque 14 points. Ocon résiste en fin de course, tu t'en souviens, à Hamilton. Le podium d'Ocon cette année à Monaco, c'est en partie sous la pluie, dans des conditions quand même difficiles, de pistes extrêmement difficiles. Et puis là encore, alors Gasly était très fort sur le sec, il y a eu le mouillé, ça ne l'a pas perturbé, ils ont tout bien fait, mais ils ont tiré parti de trois situations particulières. Bah, c'est ce qu'il faut faire en Formule 1, tout simplement.
Surtout quand on a une voiture qui, en termes de performance, c'est là que je veux en venir. la voiture, en termes de performance, elle n'est pas au niveau attendu.
Elle n'est pas au niveau, elle n'est pas au poids. Gasly a dit, ça nous coûte un dixième au tour.
Ouais, c'est donc, clair. Bon. Mais en même temps, quand tu as une voiture comme ça, c'est justement dans ces conditions-là que tu dois être vraiment parfait pour pouvoir aller chercher le petit plus. Moi, je suis très étonné de voir des équipes. C'est une petite digression, mais la deuxième grosse averse arrive. Toutes les voitures qui sont de la 11e à la 16e place font comme les autres, mettent des pneus mixtes. Ouais, ok. Alors, on sait que les pneus Total Pluie, ça ne marche pas très, très bien. Mais qu'est-ce que tu risques quand tu es 13e ou 14e à prendre le pari? On met les pluies et on voit, ça ne marche pas. Je perds 4 places, je marque 0 ou je marque 0. À la fin, ça revient au même. Si tu rentres dans les points d'un seul coup, c'est une autre histoire. Et là, je trouve que Alpine, ils ont très, très bien joué le coup là-dessus. Bon, après, il n'y a pas de mystère. Ça fait 3 fois de suite qu'il n'y a pas de, il y a aucune Alpine en Q3. C'est quand même le signe qu'en termes de performance,
même en
maxi,
4 fois, je crois.
C'est 3 ou 4 fois. En tout cas, voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ni Pierre ni Esteban en Q3. En termes de perfo, ça sera compliqué comme ça, je pense, pendant un certain temps. Mais tu parlais de l'état d'esprit.
3 fois.
Tu vois, je fais un parallèle. Mais Peugeot, ils sont arrivés aux 24 heures du Mans en se demandant finalement quelle tête ils allaient avoir dimanche soir après la course. Les circonstances ont été ce qu'elles ont été. N'empêche que les voitures ont été étonnantes en menant une partie de la course, en ayant des performances qui étaient absolument inattendues. Course d'après, en championnat du monde d'endurance, podium. Il ne faut pas négliger l'aspect psychologique dans une équipe. Le fait d'avoir enlevé des responsables qui étaient là pour certains depuis très très longtemps, ça a sans doute aussi un petit peu libéré certains ingénieurs, certains responsables qui, sans doute, aujourd'hui, prennent un petit peu plus de poids, prennent des initiatives et ont très très bien géré cette course.
Et les pilotes aussi. On est dans des conditions changeantes, particulières. On voit ça souvent à Spa quand il pleut sur une partie du circuit, c'est sec sur l'autre. Et là, le pit wall appelle le pilote pour dire qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors que d'habitude, c'est une instruction, c'est un ordre.
C'est
et là, qu'est-ce que t'en penses,
etc. Ça change un petit peu le sens de...
Et là,
le
Pierre Gasly a été... très
proactif.
Proactif, ouais, il a vraiment fait des propositions là-dessus. Il les a poussés à faire certaines choses.
Il est très très fort dans ces conditions.
Et c'est là, c'est avec ça qu'il peut aussi s'affirmer comme un pilote leader qu'on va avoir envie de suivre, en qui on va avoir faire confiance. Et c'est presque c'est ce dont il avait besoin quand même, parce que à part ce beau résultat, cette troisième place en course sprint à Spa, on cherchait quand même l'étincelle, quelque chose.
C'est clair.
Et là, ça y est, il y est. Et puis, je note quand même que Ocon, de son côté, finit dixième. Mais ça fait 3 fois de suite qu'il finit dans les points à Zandvoort. C'est-à-dire qu'il y a un certain savoir-faire. Il y a une expérience sur laquelle on peut s'appuyer. Neuvième, dixième à Zandvoort. Et c'est Ben Ocon en 3 ans. Donc, il y a des acquis, il y a quelque chose.
Et c'est presque mal payé, cette dixième place.
Ah, parce que
sûrement. Je le disais, s'il n'y a pas Guang Yung Zhou qui se met dans le mur, ça peut remonter très, très fort pour Esteban Ocon.
Tout à fait, mais il reste que cette voiture, c'est pas qu'elle est mal née, c'est qu'elle a peut-être un concept qui est très correct, mais qui manque de 3, 4, 5 dixièmes.
Ouais,
ça, c'est clair, mais elle est peut-être saine, cette voiture, mais...
Il manque de la performance.
Quand tu la pousses à ses limites, elle devient instable, difficile. C'est les pilotes qui le précisaient. Ocon disait que la voiture avait beaucoup d'instabilité. Et que ça, c'était le premier souci. Et on est au 13e Grand Prix. Sur 22, je ne pense pas qu'ils vont trouver maintenant la solution. C'est ça un petit peu qui me gêne.
Il va falloir survivre maintenant à Monza, hein, parce que ça risque d'être très, très compliqué pour Alpine à Monza. Il faut conserver cette dynamique. Moi, je vois presque comme un acte de naissance de Pierre Gasly et d'ailleurs de Bruno Famin chez Alpine. C'est-à-dire que voilà, ça a été très compliqué. On a évacué finalement, on a crevé l'abcès qu'il fallait crever à Spa. Voilà, ça y est, c'est fait et ça repart. On verra maintenant si les performances peuvent entretenir une certaine dynamique. Mais là, il s'est passé quelque chose. Alors, ça permet aussi à Pierre Gasly de passer devant Esteban Ocon au niveau du championnat. Il y a peut-être aussi un changement de dynamique
de l'émulation aussi, c'est voilà. Bien. Donc c'est bien, il faut juste qu'il continue de jouer collectif en
c'est
termes
ça.
De stratégie, quand on leur demande de ne pas attaquer, de ne pas casser la stratégie d'un autre pilote et le laisser passer. Voilà, il faut continuer de jouer collectif. C'est comme ça qu'ils s'en sortiront. La seule petite interrogation que j'ai quand même, c'est que je ne sais pas s'ils vont changer de concept ou si la voiture de 2024 sera une déclinaison de celle-là qui n'est pas extraordinaire.
Est-ce que le staff technique en place est capable de faire une voiture radicalement différente de celle-ci qui manque de performance? C'est toute la question et c'est un peu difficile de pouvoir répondre à
C'est la même personne dans tous les cas qui la dessinera, Matt Harman. Le technicien qui a dit qu'il fallait 100 Grands Prix pour revenir au sommet, jouer les podiums régulièrement, les
victoires. On y fait un petit peu moins référence maintenant.
C'est quelqu'un qui est assez discret, tout à fait. Il a échappé un petit peu à la grande lessive. Ouais. Mais maintenant, il va falloir aussi prouver qu'ils peuvent franchir un palier. Parce que là, ils sont un peu dans un no man's land au niveau du championnat.
Hein. Oui, c'est clair.
Bon, il y a Red Bull. Et puis après, dans un paquet... Il y a Mercedes qui est assez tranquille à la deuxième place, la troisième place entre Aston et Ferrari.
McLaren qui a pris un petit peu d'avance, qui a pris même une belle avance par rapport à Alpine. Oui, c'est sûr que là, au niveau du championnat des constructeurs...
Ils ne rattraperont pas McLaren au championnat, donc ils finiront sixième, ce qui est quand même un peu décevant
par rapport à ce qui était espéré. C'était pas l'objectif, hein, c'était de se rapprocher du top 3. Là. Ils sont plutôt partis dans le sens inverse. Voilà. Mais il s'est peut-être passé quelque chose... Et on le disait, sur l'aspect psychologique, ça peut éventuellement permettre à Bruno Famin, en tout cas, voilà, de travailler, de dire qu'ils sont quand même capables de faire certaines choses. Et il y a eu de très, très belles photos aussi après la troisième place de Pierre Gasly. C'est comme ça qu'on fédère aussi une équipe. Hein, dans des moments où on a été obligé de tailler dans le vif.
Oui.
Où on a parlé d'un côté de Enstone, de l'autre de Viry-Châtillon, bah pour souder des équipes, c'est peut-être pas mal d'aller chercher des podiums comme ça.
Et apparemment, ce ne sera pas Mattia Binotto qui s'en chargera dans un dans un avenir proche ou même à moyenne échéance. Apparemment, il a décliné certains contacts. En tous les cas, on sait qu'il ne viendra pas, qu'il n'est pas, a priori, dans les médias, intéressé par le projet Alpine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose de possible plus tard, mais en tous les cas, dans les médias, il faut se calmer par rapport à cette rumeur et faire avec les gens qui arriveront.
Les personnes qu'on a là. Voilà.
Ouais.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire à l'issue de ce Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. Ça va enchaîner dès le week-end prochain, hein, dès vendredi, avec la première séance d'essais libres à partir de 13h30, la deuxième à 17h, la qualif samedi à 16h et le Grand Prix évidemment dimanche à partir de 15h. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, je crois qu'on a fait le tour. Il va falloir se raser de près pour avoir un meilleur coefficient de pénétration dans l'air pour Monza.
On fréquente pas la même soufflerie, toi et moi.
Non, je suis beaucoup plus efficace. On a tout dit ?
Oui.
Alors il nous reste à dire la phrase rituelle, Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là,
on coupe le contact.